Là, on l'entend bien. C'est la guerre. En 1870, c'est l'affrontement entre la France et la Prusse, devenue plus tard une partie de l'Allemagne. Quand les Prussiens gagnent et assiègent Paris, un nouveau gouvernement est mis en place et c'est une république conservatrice qui naît, au détriment du peuple qui a trinqué pendant le siège. Les habitants de Paris, majoritairement ouvriers, se sentent donc délaissés par ce nouvel empire. Ils finissent par se révolter et prendre le pouvoir, et cet événement s'appelle la Commune, et on est en 1871. Les révolutionnaires, qu'on appelle aussi les communards et communardes, seront exécutés par les troupes de Versailles quelques semaines plus tard. Le gouvernement revient en force, renverse la Commune et fait un massacre. 12 000 militants sont fusillés. Et c'est dans ce contexte, d'après Commune, qu'une nouvelle icône du mouvement ouvrier militant fait son apparition. Il était une fois Marie Mineur. Marie, elle est née à Verviers, ville à l'avant-garde de la révolution industrielle. C'est un peu le Manchester liégeois, et Marie, elle vient d'une famille ultra pauvre. Elle travaille en usine dès l'âge de 8 ans. Et puis au cours de sa vie, elle va cumuler les emplois de service. Elle passe de couturière à blanchisseuse, en ayant même été servante à une époque. Les heures ouvrières sont difficiles et les sacrifices sont lourds à porter. Alors quand elle ouvre les yeux, elle a 41 ans. Elle est dans une salle de Dizon, le 2 novembre 1871, et elle se réveille suite au discours gueulant d'une rebelle en puissance à cette époque. C'est Mina Puccinelli qui sera le déclic de l'engagement militant de Marie Mineur.
Au moment de la Commune de Paris, beaucoup de femmes ont été amnistiées après quelques années. Et une d'elles, donc Mina Puccinelli, c'est une communarde. On les appelait aussi les pétroleuses parce qu'on les avait accusées de mettre le feu au monument de Paris. Mais donc, Mina Puccinelli, quand elle arrive à Verviers pour faire des meetings, ben dans la presse, c'est la pétroleuse Mina Puccinelli, quoi. Et ça fait un foin fou parce que c'est une vedette à l'époque, quoi.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous l'avez déjà aperçu, Mina Puccinelli, la pétroleuse, a fait sale comble hier à Verviers. 500 personnes étaient présentes lors de sa conférence où la militante valorisait son vive la commune.
Mina Puccinelli cumule les soirées de conférences. Elle s'est encore exprimée hier
soir. Mina Puccinelli, comme la police aime l'appeler, était à Verviers hier soir. Infatigable, son meeting du 5 novembre a fait un carton plein. Et c'est bien entendu son militantisme qu'elle a apporté. Elle y critiquait notamment la justice belge qu'elle trouve injuste et partielle, la religion qu'elle désigne comme lieu de prostitution clandestin et bien entendu le gouvernement qu'elle taxe de souteneur de vin. Reportage, Jasmine Moulet et Karine Der.
Elle est ultra surveillée par les flics belges et français, parce qu'à l'époque, on croyait que le siège de la Révolution en Europe, c'était Verviers. Toute l'Europe était persuadée que si un jour ça pétait, ça allait péter à Verviers, quoi. Et donc c'était très quadrillé par les flics, et notamment la police verviétoise travaillait de manière très étroite avec la police parisienne qui demandait tout le temps des rapports sur ce qui se passait à Verviers. Donc Mina Puccinelli vient à Verviers, donne 6 ou 7 conférences, ce qui est beaucoup, c'est chaque fois plein, hein, donc pour l'agglomération c'est très bien, chaque fois des centaines de personnes, des centaines de femmes, et à chaque fois elle explique, ben voilà, la commune ça n'a été qu'un échec, mais ben on recommence demain, enfin en très gros, c'était extrêmement, bon voilà. Et donc ça, les éléments de Mina Puccinelli, c'est en octobre-novembre 71, et puis en mai 72, je vois Marie Mineur apparaître dans le groupe de l'Internationale. Donc il n'y a pas de coïncidence, enfin si, c'est une coïncidence, mais ça m'étonnerait que ce soit d'elle-même chez elle, quelle que soit dire 51 ans, tiens, je vais maintenant descendre dans la rue, quoi, alors qu'elle avait eu le temps. Hein. Donc Quelques mois après ça, elle entre dans un groupe féminin du mouvement ouvrier verviétois, qui à l'époque est le plus dynamique de toute la Belgique, ce mouvement ouvrier verviétois. Et ce groupe féminin, elle en devient la secrétaire. Alors, à l'époque, le mouvement ouvrier Verviétois était très anarchiste. Donc, leur secrétaire, c'était celle qui voulait bien. Et il n'y avait pas de titre et d'organisation très marquante. Mais on peut dire qu'elle en est la secrétaire parce qu'on voit que c'est elle qui signe la plupart des appels, des convocations, etc. Hein, même si ce n'est pas structuré du tout. Et il faut bien souligner aussi aux gens que tout ça est 100% bénévole à l'époque. Les gens risquent leur place en militant. Quand le mouvement ouvrier connaît un recul partout, hein, dans toute la Belgique, après la Commune en 1870, elle s'inscrit à fond dans le mouvement rationaliste. Ça, c'est un tournant qui a été le cas d'énormément de militants qui se disaient « on n'arrivera jamais à rien ». On n'arrivera jamais à rien, notamment à cause du poids de l'Église, hein, qui toujours, à peu près toutes les Églises se sont toujours mises du côté des puissants. Et puis, ils changent en fonction de la puissance qui change, quoi. Mais voilà. Et donc, le combat était clairement un combat laïque, anticlérical, anti-Église, et elle a été jusqu'à devenir la secrétaire, un peu même officielle, je vais dire, une des six membres du comité de l'association laïque locale. Ce qui est totalement, totalement exceptionnel. C'était cinq mecs plus une femme.
Citoyenne, citoyen, depuis longtemps déjà, j'ai travaillé à provoquer des séances bimensuelles afin d'exposer publiquement nos idées et de travailler par la libre discussion à l'instruction du peuple, instruction sans laquelle on ne peut arriver à l'émancipation du prolétariat. C'est à vous, libres penseurs, qui avez abandonné la religion catholique parce que vous l'avez trouvée mauvaise, basée sur le mensonge et la crédulité. C'est à vous qui cherchez la justice et la vérité que je m'adresse particulièrement. Arrachons nos enfants à l'influence pernicieuse de la prêtraille. De cette façon, nos enfants à nous, libres penseurs, respecteront nos dernières volontés et nous serons enterrés civilement. Faisons nous-mêmes ce qu'il y a à faire, car les libéraux n'ont rien fait du tout et ils ne feront rien. Unissons nos efforts, écrasons la tyrannie, éteignons les discours et ne formons plus qu'une seule famille soumise à une même loi, ne suivant qu'un même code, celui de l'égalité dans les droits et les devoirs, et qu'il n'y ait plus qu'un trône, celui de la justice, qu'un autel, celui de l'humanité.
Donc la place de la femme au 19e siècle, d'une manière générale, elle est pire que ce qu'elle a été au 17e, 18e. Au 17e, 18e, et même encore avant, il y a toute une série de choses qui ne sont pas codifiées. Plus la société avance, plus on formalise les choses et plus on met la femme en numéro 2. Et alors au 19e siècle, c'est le sommet avec le code Napoléon. Donc elles n'ont légalement aucun pouvoir, hein, un petit peu comme l'ouvrier n'a aucun pouvoir face au patron, hein, en cas de contestation, le patron est cru sur parole. Ben ici, en gros, c'est la même chose, quoi. Le code civil de Napoléon, ou le code pénal, je suppose pénal, celui-là, va jusqu'à dire qu'un homme peut tuer sa femme en cas d'adultère, dans l'autre cas, ça vaut mieux pas oser, etc., etc., etc. Elles ne peuvent pas toucher leur propre salaire, elles ne peuvent pas travailler sans l'autorisation du mari. Donc elles sont vraiment des citoyennes de deuxième zone dans toute la société. Mais donc le problème, alors, dans le mouvement, dans la femme du monde ouvrier, ben, c'est qu'elle a cette difficulté-là d'être une citoyenne de seconde zone, mais en plus, elle a cette obligation de faire face à la pauvreté, à la misère. Je ne dis pas que tous les ouvriers étaient tous dans la pauvreté, dans la misère. Allez, on va dire les 9/10, quoi. Ça fait quand même une grosse proportion, hein. Voilà. Beaucoup d'historiens disent c'était des gens qui vivaient plus proche de la mort que de la vie, quoi. Tout le système était fait pour qu'ils vivent. Point. Pas pour qu'ils vivent heureux, pour qu'ils vivent tranquilles, pour qu'ils vivent et qu'ils produisent. Et donc la femme, très souvent, doit travailler très tôt. Parce qu'il faut ramener à la maison. Quand je dis très tôt, c'est vers 17-18 ans, hein, mettons. Puis, et on fait les enfants, et puis on fait les enfants, il faut s'occuper des enfants, mais on ne sait pas aller continuer à travailler à l'usine. Et donc là, ce sont des années terriblement difficiles. Il n'y a évidemment aucune allocation familiale, rien du tout. Il faut s'occuper des enfants, on ne sait plus aller travailler. On vit encore plus dans la misère. Et il ne faut pas compter sur le mari pour s'en occuper. De toute façon, le mari, lui, fait 12 heures par jour, hein, quand ce n'est pas 15. Donc c'est la double peine, quoi. Elle est déjà une citoyenne de seconde zone, elle est une citoyenne de seconde zone malheureuse, quoi, hein. Marie Mineur explique dans ses courriers que sa mère, quand elle devait travailler et que la petite était malade, ben, on allait la conduire chez quelqu'un d'autre, de plus pauvre ou de plus vieux, qui ne pouvait pas travailler. Enfin, il n'y avait pas de crèche, il n'y avait rien. Faut vraiment s'imaginer à quel point c'était lourd. Alors, la femme dans le mouvement ouvrier, la difficulté là, elle est dans le hiatus complet. Il y a vraiment une contradiction entre le discours et la réalité des faits. Le rôle de la femme, on ne la veut pas comme militante. On ne la veut pas. Mais on dit qu'on doit la libérer, on dit qu'il faut que tout le monde soit à égalité, etc. etc. Il y a vraiment un jeu incorrect là. Le discours fait plaisir à lire, et puis la pratique, quand on la voit, c'est assez choquant. Donc c'est extraordinaire, les femmes qui ont milité et qui ont réussi à militer dans un contexte pareil. Les règles du jeu étaient scandaleuses, quoi. Même dans le mouvement le plus progressiste qui soit. Alors, dans le cas de Marie Mineur, elle participe à la section des femmes de l'Association internationale des travailleurs, qu'on a appelée après la Première internationale, simplement parce qu'elle s'est arrêtée et qu'il y en a eu 2, 3, 4, 5 après, quoi. Des sections de femmes dans la Première internationale, il y en a eu peu. Une des toutes premières, ça a été à Genève. Une des toutes premières, ça a été en Hainaut, avec Léonie Andrès, à Monceau, sur je ne sais quoi, sur Sambre, enfin tout près de Charleroi. Et puis alors, il y a eu celle de Verviers. Et en Belgique, il y en a encore eu après ça, une autre en Hainaut. C'est tout. Donc deux en Hainaut, une à Verviers. Mais alors, si on compare la section de Verviers, donc ça, celle de Verviers, c'est celle de Marie Mineur, hein, qui y milite jusqu'au bout, et les trois autres de Belgique, non, les deux autres de Belgique, celle de Genève et les quelques dizaines d'autres qu'on a en Europe, la différence de Verviers, c'est qu'elle tient 10 ans. Alors que toutes les autres, c'est 6 mois, 6 semaines, une ou deux réunions, et puis on laisse tomber, etc. Et donc, à Verviers, pendant 10 ans, il y a un mouvement féminin et féministe.
Lectrice assidue du Mirabeau, je viens vous soumettre une observation que j'ai faite en lisant votre estimable et vaillant journal. Cette observation, la voici. La question de l'émancipation doit, il me semble, se résoudre par l'éducation, car à quoi servirait une révolution violente si l'on devait à son lendemain retomber, faute de connaissances, faute d'aptitude, aux mains de quelques ambitieux ? Il importe donc, pour que l'enfant soit élevé convenablement, que la mère connaisse les devoirs de son état et qu'elle soit mise à même de diriger ses enfants et d'en faire des êtres vraiment humains, dignes du nom d'homme et sachant remplir ses devoirs. Or, il me semble que l'on s'occupe trop peu de l'éducation de la femme, et il me semble que, quand, par hasard, on absorbe cette question, on est déjà hâte d'en finir. La femme peut cependant jouer un rôle important dans la lutte sociale, et on ne peut nier qu'elle soit capable de se mêler à une vie active. Est-ce que les facultés intellectuelles manquent à la femme ? Évidemment non. En littérature, combien d'hommes ne s'estimeraient-ils pas heureux s'ils pouvaient égaler Georges Sand, Madame de Girardin, Émilie Carlan ? Dans les arts, n'avons-nous pas Mademoiselle Rosa Bonheur et beaucoup d'autres dont je ne citerai pas le nom ? Est-ce la fermeté, le courage qui leur manque ? Vera Sassoulich a-t-elle manqué de courage ? Madame Roland a-t-elle tremblé devant l'échafaud ? Je bornerai là mes exemples. J'ajouterai seulement que les prêtres catholiques ont compris qu'entre leurs mains, la femme était un instrument d'une grande puissance. Car dit le proverbe, ce que la femme veut, Dieu le veut. Et la femme est aux mains des prêtres.
Donc tout ce discours-là a pénétré les esprits d'une catégorie de verviétoises pendant une dizaine d'années. Et ça, c'est totalement exceptionnel dans toute l'Europe. Hein, dans toute l'Europe. Elles étaient 200 à 300 militantes. Ce que dit les rapports de police français, ils lisent les rapports de police français, ils disent qu'elle a des talents d'oratrice qui font qu'elle est extrêmement suivie. Donc c'est aussi une qualité, enfin, pour les choses. Et alors un journal catholique dit elle a le verbe, elle a la voix haute et le verbe facile. Je dirais que d'une manière générale, elle a quand même inspiré des militantes sur le moment même, mais alors aussi 70 ans après, les militantes féministes de la région de la Louvière, autour de Jeanne Vercheval, et ces militantes se sont appelées les Maries mineures, à l'époque où il y avait la grève des femmes de l'AFN, on était en 66, à l'époque où le mouvement ouvrier avait une veine féministe extrêmement importante, quoi. Où on peut dire où il y avait énormément de femmes qui allaient militer en mouvement ouvrier, ce qui n'était plus arrivé depuis bien longtemps. Et donc les femmes de la Louvière ont repris le nom de Marie mineure, se sont appelées les Maries mineures. Il existe encore à la Louvière sur un mur à travail égal, salaire égal. Le slogan est colossal, il n'a jamais été recouvert de badigeons. Il est là depuis sans doute plus de 50 ans, signé MM, quoi, Marie mineure.
Hop, alors, bon, ça c'est le micro. Est-ce que vous pourriez donner votre prénom, votre nom de famille?
Mon nom c'est Jeanne Vervoort, que j'ai abandonné à un certain moment parce que je ne trouvais plus d'emploi. J'ai donc pris le nom de mon mari. Et puis, je l'ai justifié en tant que féministe, parce que c'était aussi le nom de mes enfants. Donc, j'ai gardé Vercheval-Vervoort, voilà. Dans la classe ouvrière, en général, il y a beaucoup d'humour. Ça nous sauve parfois de certaines situations. Les hommes ont toujours raison. Hein, discuter avec eux sérieusement, c'est pas possible. Donc, ce qu'on disait, on rigolait, on essayait de tourner en dérision. Enfin, voilà. C'était notre façon à nous, sans violence, mais enfin, tout de même, on leur sentait les pieds, comme on disait.
Ça veut dire quoi?
Sentir les pieds, ça veut dire se moquer d'eux. Ça les faisait taire. Quand j'ai téléphoné à Chantal, j'ai dit, moi, si vous avez des doléminas en Wallonie, moi j'en suis. Et donc, quelques jours plus tard, elle me dit, on m'appelle de nouveau pour un interview à la radio, j'aimerais bien qu'ils y viennent, mais avec les copines, on a trouvé, il y en a une qui fait un travail sur Marie mineure, on trouve que ce serait bien que vous parliez de Marie mineure, vous, que vous vous appeliez Marie mineure. Alors je lui ai demandé qui était Marie mineure, elle m'a dit, je ne suis pas très certaine, mais il s'agit d'une femme mineure qui a été mineure dans les mines de Gilly. Or, comme tu viens de la région de Charleroi et de Gilly, peut-être que ça peut t'intéresser. Ok, Marie mineure, une mineure. C'était pas ça du tout, mais bon, on l'a pris comme ça et on était très fiers, évidemment, de porter ce nom-là. En fait, quand elle m'a invité à venir parler de féminisme à la radio, je me suis dit, mais nous n'avons pas de groupe. Elle me dit, mais vas-y, hein, fais un groupe. Donc, je travaillais à ce moment-là chez Acora City et j'avais donc deux copines qui étaient intéressées. Elles trouvaient que c'était pas mal. Et puis, j'avais une amie avec qui on avait milité à Bruxelles, mais qui habitait dans la région. Nous étions une petite dizaine et on a décidé qu'on n'allait pas être un groupe et dire qu'on était un groupe sans avoir rien fait. Et donc, on s'est dit, on va faire une enquête pour voir ce que veulent les femmes qui travaillent. Et en posant des questions, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était les questions qu'on poserait encore maintenant, à la limite. Qu'est-ce que vous faites de vos enfants quand vous travaillez? Est-ce que vous pensez l'égalité hommes et femmes, etc. Et nous nous sommes rendus compte qu'une ou deux personnes des usines nous ramenaient un paquet avec parfois la même écriture sur beaucoup de... Donc, il y avait des femmes qui prenaient en charge, à l'intérieur de l'usine, les... Et ça, c'était merveilleux, évidemment. Nous avions gagné. Ces femmes nous remettaient les papiers et on leur laissait des numéros de téléphone et donc on leur disait on est à votre disposition. Donc quand il y avait un problème dans l'usine, on nous téléphonait, on disait est-ce qu'on peut avoir un coup de main ? Et c'est comme ça que on est rentré dans 4 usines de la région, enfin rentrer aux portes des usines, mais toujours. Non pas avec nos revendications, mais avec les leurs. Et donc, on encourageait leurs revendications et on les encourageait à sentir les pieds des délégués syndicaux. On allait sur les marchés, distribuer des tracts disant « n'allez pas avorter avec des aiguilles, nous pouvons vous aider ». Donc, on a heureusement, la région étant une région de gauche quand même, enfin de gauche avec des papas de gauche, hein, les socialistes, c'est vraiment les pères, hein, surtout à l'époque. Donc on n'a pas été vraiment empêchés par la police. Oui, la police venait nous dire « ça suffit maintenant hein, », mais peut-être qu'on a été arrêtés une ou deux fois, mais ça ne nous impressionnait pas. Je crois que ça n'est pas resté dans nos souvenirs en tout cas. À côté des enjeux, qu'est-ce que c'est ? En fait, comme les maris mineurs faisaient pas mal de bruit en Wallonie, et Françoise Collin était une amie de Marie-Denis, elle a parlé de moi, et puis Marie-Denis m'a téléphoné, et puis elle m'a parlé de cette idée d'un petit livre rouge des femmes, et si je viendrais à une réunion, on est allé à 4-5 maris mineurs à chaque réunion, c'était très agréable, on rigolait beaucoup. On parlait du travail des femmes, de sexe, des enfants, du travail ménager, etc. C'était très bien. Il y avait là Suzanne Van Rokkegem qui était journaliste au Soir. Et donc on a commencé ce petit livre rouge avec des réunions d'une vingtaine de personnes, et puis d'une dizaine de personnes, et puis d'une trentaine de personnes, et puis de 5-6 personnes, et puis de 10 personnes. Et puis finalement on s'est dit il faut quand même à un certain moment mettre tout ça ensemble. Nous avons rédigé ensemble, enfin rédigé, nous avons récolté. Et ça commençait par un texte de Marie qui disait « Quand on va à une réunion entre femmes, qu'est-ce qu'on fait ? On prépare de quoi manger pour l'homme ? On fait attention que les enfants soient regardés, etc. » Bon, en fait, on explique comment c'est difficile de se réunir.
Qu'arrive-t-il lorsque les femmes se réunissent le soir, par exemple, pour écrire leur petit livre ? Ce soir-là, le mari trouve que le souper est mauvais. Il se dit qu'il ne pourra pas jouir de sa détente bien méritée. Il a l'impression que le bébé pleure plus qu'à l'ordinaire et que le programme de télévision est moche. Tout en courant dans la rue pour arriver à temps, la femme sent l'humeur de son mari et elle se demande si elle n'aurait pas mieux fait de renoncer à la réunion. Elle se demande si elle n'a pas fait quelque chose de mal. Lorsque les hommes se réunissent le soir pour l'une ou l'autre raison, pour aller jouer aux cartes au billard ou pour aller s'amuser, on peut quand même, une fois, s'amuser. Le souper ressemble quand même à un vrai souper. L'enfant ne pleure pas plus qu'à l'ordinaire. La femme en prend son parti. Elle repasse les chemises après avoir rangé la vaisselle et puis elle remonte le réveil. Le mari revient tout à son aise. Il trouve la maison en ordre et va se coucher l'âme en paix.
Et puis, petit à petit, on explique ce qui se passe, aussi bien quand on fait l'amour et qu'on n'a pas envie, que tout d'un coup, on oublie qu'on est occupé à faire l'amour et qu'on dit, tiens, il faudrait bien remplacer les chaussures du gamin ou changer les tentures. Enfin, bon, des choses aussi banales que ça, mais aussi, c'est quoi le patriotisme ? C'est un coffre-fort avec un drapeau dessus, quoi. Hein, donc, on est allé avec toutes les idées qui avaient émergé Marie avait mis un micro pendant les réunions et on a retrouvé tout ça. Ce qu'il y avait aussi il y avait ce combat contre le misérabilisme aussi. Les travailleuses avaient le droit à la parole. Là, on ne parlait pas des travailleuses, elles parlaient d'elles. Voilà, et ça c'était important.
De sa personnalité, elle devait avoir du ça c'est moi qui tire une conclusion, hein, elle devait avoir du culot, du cran, puisqu'elle se sépare de son mari, elle est mariée, hein, à l'âge de 18 ans, elle est mariée avec un ouvrier métallo. Et 15 ans plus tard, ils ne sont plus ensemble. Je ne sais pas qui a largué l'autre. Ils n'ont pas d'enfant. Ça peut être ça l'explication. Mais pour accepter de vivre célibataire à l'époque, c'était beaucoup plus facile de vivre à deux. Hein. On s'épaulait. Elle revit avec le type 2 ans après. Il meurt. Puis, quand elle devient veuve une quinzaine d'années plus tard, elle se remarie. Mais elle se remarie avec un type plus jeune, de 10 ans. C'est aussi quelque chose de très inhabituel, hein, les convenances. À l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement lourd. Elle est restée avec lui 40 ans, je crois. Et alors, une ténacité terrible, hein, parce que 51 ans, qu'est-ce que je dis, non, 1831-1872, elle a 41 ans, elle commence à militer. Et la dernière fois qu'on la voit militer, c'est en 1905-1906, dans ces eaux-là, donc elle a 75, oui, elle est morte en 23. Elle a 75-76 ans, c'est encore elle qui organise les fêtes de la jeunesse. C'est vraiment un personnage assez extraordinaire, hein, tout à fait. Il y a une trace physique qui subsiste, pas d'elle spécialement, mais du local où se réunissait la section des femmes de la Première Internationale. Donc si on a des auditeurs verviétois, ça se trouve au fond de la cour sauvage, place du Martyr. Donc la cour sauvage, c'est là où c'était entre le journal Le Jour et Di Palma. Ça, c'est pour les gens de plus de 50 ans qui écouteraient. Ah oui, ça va, je connais. Dit-il de dire que les deux sont fermés. Le journal n'est pas fermé, mais ils ne sont plus là depuis des années. Enfin, ça dira quelque chose, la cour sauvage. Et c'est le seul local de la Première Internationale qui existe encore en Belgique. Il y a d'ailleurs au-dessus encore une peinture locale des employés, parce qu'après c'est devenu syndicat des employés, etc. Alors, l'autre trace, la ville a repris il y a quelques années un prix féministe. Il y avait un prix qui s'appelait le prix Olympe de Gouges, mais qui était organisé par des militantes qui commençaient tout doucement à vieillir, etc., et qui ont dit « bon, on préférerait arrêter ». La ville a repris le prix. Et on a fait le prix Marie Mineure. Et donc ça, c'est bien, le nom va rester. Et ça veut dire qu'à chaque fois, prix Marie Mineure, on rappelle à chaque fois dans la presse, la première militante, socialiste, féministe, laïque et anarchiste quand même sur les bords, en milieu ouvrier en Belgique.
On remercie Freddy Joris pour sa disponibilité, sa bonne humeur et son expertise autour du personnage mythique qu'est Marie Mineure. Administrateur général de l'Institut du patrimoine wallon, il a écrit une vingtaine d'ouvrages d'histoire politique et sociale. D'ailleurs, dans son livre Marie Mineure, Marie Rebelle, vous pouvez retrouver tous les discours de cette militante féministe et ses lettres publiées dans le Mirabeau. La référence de son bouquin se trouve en description de cet épisode. Merci aussi à Jeanne Vercheval de nous avoir permis de rentrer dans sa vie. Il était une fois nos femmes wallonnes est une série de podcasts qui part à la découverte de femmes qui ont marqué et marquent l'histoire de la Wallonie. Qu'elles soient directrices d'école, artistes ou militantes, ces badass d'hier et d'aujourd'hui rayonnent sur notre patrimoine wallon. Cette série sonore est une création originale du studio Ultravague, soutenu par Star Invest. À l'interview, Héloïse Rouard. À l'écriture et au montage, Cassie Enaf. Au mixage, Marius Adam. À la prise de son, Noémie Lalou et Anne-Sophie Skittecat. À l'interprétation, Gaëlle Swan. Les visuels sont de Gilda Fellé. Et la voix off, c'est moi, Jessica Ricard.